I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chers auditeurices, ici Naomi Titi. Avant d'écouter votre épisode des couilles sur la table, laissez-moi vous présenter le cycle ciné Contre-champ, lutte collective, film féministe de la Cinémathèque du documentaire de la BPI, notre sponsor. La programmation, en partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, propose des classiques restaurés, tels que « Sois belle et tais-toi » de Delphine Seyrig, qui, moi, m'a passionnée, mais aussi des réalisations plus récentes et internationales, comme « Le passage du col » de Marie Botois ou bien « Rebut » de Mayara Santana. Contre-champ, c'est plus de 50 ans d'histoire de la solidarité transnationale des mouvements féministes, à travers un patrimoine audiovisuel subversif et émancipateur. C'est aussi un parcours qui invite les spectatrices à questionner le discours dominant en utilisant le cinéma comme moteur d'engagement. Et si, comme moi, vous aimez le cinéma documentaire, ce cycle vous intéressera forcément. Rendez-vous du 19 avril au 4 juillet au cinéma du Centre Georges Pompidou à Paris. Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table.
Salut à tous, c'est l'équipe d'ISO. Un petit message à destination des parents, des tontons, des tatas, des grands frères ou des grands-mères. On a créé une chaîne de podcast pour les enfants de 3 à 9 ans. DISO, D-I-S-O. C'est par abonnement sur Apple Podcasts et Spotify, 3,99€ par mois. Et c'est un super cadeau pour faire découvrir l'audio aux enfants dès le plus jeune âge et les aider à décrocher des écrans. On propose de nouvelles histoires chaque semaine, avec des créations originales, des histoires du monde entier et des super classiques comme les aventures de Cornebidouille. D'ISO sur Apple Podcasts et Spotify, avec déjà plus de 350 histoires au catalogue. À bientôt.
Les couilles sur la table, épisode 9. Dans cet épisode, on va parler de ce que les hommes font aux autres hommes. Nous sommes, comme dans l'épisode précédent, en compagnie d'Olivia Gazalé, philosophe et auteur de cet ouvrage formidable qui s'appelle « Le mythe de la virilité » que je vous recommande encore parce qu'il est extrêmement riche, détaillé et très agréable à lire. Pendant cette petite demi-heure, je vous propose de penser au père du père du père du père du père du père de votre père et même au père du père du père du père du père du grand-père de cet homme-là. Enfin, vous m'avez compris, on va penser à comment ont été élevés les hommes. Quels ont été leurs modèles de masculinité et quelles conséquences cela a encore sur nos vies aujourd'hui. Parce qu'on ne naît pas homme, on le devient, ou plutôt, on ne naît pas viril, on le devient. Olivia Gazalé, merci beaucoup.
Merci à vous.
Peut-être qu'il faut commencer par ce qui semble être le terreau de nos modèles de virilité, c'est-à-dire Rome. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'homme idéal à Rome ? À quoi est-ce qu'il ressemblait ?
Oui, on aurait pu aussi partir de la Grèce, où ils avaient aussi un modèle de ce qu'ils appelaient l'andreia, c'est-à-dire la virilité idéale. Et en fait, les canons ont été établis en Grèce et puis ils ont été parfaits du verbe parfaire, à Rome. Ce sont des canons qui sont d'abord des canons de beauté physique. Étonnamment, c'est très important de rappeler que il y a cette idée que le meilleur du matériau humain, la perfection humaine, c'est le corps masculin. C'est la perfection humaine. Donc il faut présenter évidemment des épaules larges, il faut être grand, il faut, chez Aristophane, il y a même aussi des détails sur la fesse rebondie, mais la verge menue. Ah, donc il y a des canons évidemment physiques, et il y a aussi aussi des canons qui sont introduits par la morale stoïcienne notamment, et qui sont des canons de moralité. C'est-à-dire que Hercule, qui est le meilleur représentant de l'Andrea grec, il est évidemment valorisé et admiré pour ses qualités de force physique, de puissance, de sa musculature magnifique, etc. Mais aussi pour son courage, son opiniâtreté, sa valeur morale, sa bravoure, sa combativité, etc. Donc, en fait, ce sont des canons à la fois physiques et moraux, mais ça revient, mais c'est toujours la même idée de puissance et de maîtrise.
Oui, d'autocontrôle en fait, d'auto-répression, d'être capable de se maîtriser, de se gouverner.
Oui, et de gouverner surtout. En fait, c'est ça qui les place au-dessus de la femme, parce que la femme est réputée colérique, irrationnelle, irréfléchie, impulsive, par opposition à un homme qui, lui, se pense toujours comme maître de ses émotions et de ses sentiments. Et ce que va introduire le stoïcisme, c'est cette idée qu'un homme viril doit apprendre à supporter la douleur et même désirer la mort. On va peut-être y venir quand on va parler du service militaire. Mais cette idée d'autorépression du sentiment, ne jamais rien montrer. D'ailleurs, symboliquement, vous me parliez des Romains. À 17 ans, le jeune Romain se couvre d'une toge. Et la toge est là pour, symboliquement, c'est l'idée de la pudeur. C'est-à-dire, non seulement la pudeur physique, mais surtout la pudeur des sentiments. Un homme ne doit rien montrer, ni pleurer, avoir peur, ni alors voilà,
il ne peut parce que en fait il y a autocontrôle, oui, des sentiments du corps, mais il y a autocontrôle aussi du corps, des sécrétions, etc. Oui. J'étais très étonnée de lire que l'homme n'était pas censé ni cracher, ni éternuer,
ni renifler,
ni bâiller,
parce que ça, ce sont des signes d'effémination. Et il faut bien comprendre que être un homme, c'est d'abord et avant tout ne pas être une femme et se démarquer de la femme. Donc l'effémination, c'est la pire des hantises dans l'Antiquité, et ça l'est resté longtemps.
Et donc, même aujourd'hui, on en garde des traces.
Voilà, bien sûr. Parce que cette homophobie qui découle de la gynéphobie, c'est-à-dire c'est parce que le féminin est déprécié que l'effémination est soupçonnée d'être l'indice de la lâcheté, de la pusillanimité et de la mollesse. Parce qu'encore une fois, la mollesse, c'est la hantise romaine, la mollicia.
La mollicia.
La mollicia. Il se traitait sans arrêt de mollis, parce que la mollicia, ça renvoie à la passivité féminine et donc à cette idée que la femme ne se gouverne pas puisqu'elle subit ses écoulements menstruels par opposition à un homme qui, lui, est censé, mais on a vu que c'était difficile, est censé gouverner son érection et ses émissions séminales.
On fait un petit détour géographique et on va en Grèce. Vous écrivez surtout le système pédérastique en Grèce. Je trouve que c'est vraiment intéressant là, de s'y pencher et d'en parler. Il y a un peu ce cliché de la Grèce antique comme un paradis gay, où voilà, c'était très accepté et tout. Mais en fait, vous montrez que ce n'est pas du tout l'homosexualité telle qu'on la pense aujourd'hui. C'était en fait aussi un système de domination. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment fonctionnait le système pédérastique en Grèce?
Oui, c'est vraiment passionnant cette histoire. Parce que quand vous dites, à juste titre, ça n'a rien d'un paradis gay perdu, c'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, les catégories même d'hétérosexualité et d'homosexualité n'existaient pas en Grèce. En réalité, vous aviez l'homme, le citoyen libre, avait une police, qu'on pourrait appeler une polysexualité, c'est-à-dire qu'il avait une épouse légitime, des maîtresses, des concubines, des états, ce qu'on appelait les états-ires, et puis il allait voir aussi des prostituées. Mais il y avait quelque chose qui était considéré comme un rituel de passage obligatoire dans la bonne société athénienne et qui était ce rituel de pédagogie pédérastique. Et en quoi ça consistait? C'est un jeune homme qui... il faut savoir qu'il s'entraînait nu au gymnase, où il faisait aussi des concours de beauté. Donc il s'y faisait admirer par des hommes plus âgés et séduire. Et il était pratiquement... Enfin, c'était très mal vu de ne pas avoir, quand on était un jeune homme, donc un éromène, c'est de ne pas avoir un protecteur qu'on appelait l'éraste et qui était censé vous viriliser. C'est-à-dire évidemment que il y avait comme prétexte l'éducation intellectuelle, culturelle, il fallait lui écrire des poèmes, il fallait le balader, etc. Mais en réalité, il y avait aussi une pénétration active qu'on qualifierait aujourd'hui tout simplement de pédophilie, puisque en plus de ça, le rapport sexuel était extrêmement codifié, puisque l'éraste, donc le plus âgé, devait impérativement pénétrer analement le jeune homme et en aucun cas l'inverse, parce que c'était un rapport de domination. Et l'idée, c'était que le sperme de l'homme plus âgé était quelque chose de virilisant. Il tenait le sperme en tellement haute estime, il le valorisait tellement qu'on considérait que ça virilisait le jeune homme d'être fécondé donc par le sperme d'un homme plus âgé. Il y avait aussi des fellations. On retrouve ça, ce rituel ?
En Nouvelle-Guinée, c'est ça ?
Oui, en Nouvelle-Guinée, chez les Barouya. Ça a été vu par Maurice Godelier, voilà. Donc avec des histoires de fellations rituelles. Et donc c'était cette idée, toujours la même idée, que le sperme va
viriliser.
Et surtout va contrebalancer l'effet jugé néfaste du lait qui est féminisant pour le jeune homme. Donc en fait, la pédérastie grecque, c'est une sorte de rituel, c'est un rite de passage. Pour devenir adulte, on doit passer par cette virilisation, par l'homme plus âgé. Et donc il y a une anecdote assez amusante, parce que nous, ça nous ferait frémir. C'est dans un texte d'Aristote, d'Aristophane.
Dans les oiseaux.
Dans les oiseaux.
J'ai la citation, c'est page 212.
Voilà. Ah, vous l'avez noté.
Oui, je notais.
Alors, c'est un personnage des oiseaux d'Aristophane qui dit « Mais comment, tu rencontres mon fils alors qu'il quitte le gymnase, tout propre, sorti des bains, et tu ne l'embrasses pas, tu ne lui dis pas un mot, tu ne lui palmes même pas les couilles, et tu prétends être un de nos amis. » Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, autant à Athènes, c'est un rituel initiatique de virilisation pour les jeunes hommes de la bonne société, en revanche, à Rome, je crois que c'est presque encore pire, parce que à Rome, ils pratiquaient pas du tout ça de la même manière, parce que c'est une société beaucoup plus paternaliste, et donc le père de famille n'aurait jamais supporté la concurrence d'un éraste dans son autorité sur le jeune. En revanche, eux, ils avaient de petits esclaves.
Ça, vous racontez et ça, c'est terrible, j'en savais pas du tout.
Tout petit. C'est l'empereur Tibère qui élevait, qui dressait en réalité des petits enfants qui avaient entre 2 et 4 ans à venir nager en apnée entre ses cuisses pendant son bain quotidien pour sa plus grande délectation. Et on leur apprenait à faire ce qu'il les appelait ces petits poissons qui venaient lui faire des caresses buccales.
Lui et beaucoup d'autres, parce que vous dites qu'il y avait des écoles spécialisées où on éduquait les petits garçons à être des esclaves sexuels. En fait.
Absolument. Les pueri delicati. Donc ils avaient la peau douce, ils sentaient bon, ils avaient de longs cheveux, ils étaient parfumés et ils venaient agrémenter de leur présence délicate les banquets. Et c'était tout à fait accepté socialement.
En fait, ce qui est frappant quand on regarde la manière dont ont été élevés toutes ces générations d'hommes, la manière dont ont été traités les petits garçons, c'est la violence en fait. C'est que c'est extrêmement violent. On a ri, on a idéalisé ce système pédérastique, mais il faut quand même rappeler que c'est des générations de jeunes garçons en fait qui ont 12 ans, qui sont sodomisés par des hommes mûrs et que tout le monde trouve ça tout à fait normal. Et de manière générale, oui, que l'éducation des garçons est quand même très violente. À l'époque plus contemporaine, enfin moderne, voilà, on a quand même ce proverbe qui dit « qui aime bien, châtie bien ». En fait, c'est la pédagogie qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, non ? L'idée qu'on apprend en frappant.
Exactement. Et en fait, ça s'inscrit dans, effectivement, toute une vision de la pédagogie qui vise à rien d'autre qu'à endurcir le garçon. Un homme, un vrai, c'est quelqu'un qui encaisse les coups, qui méprise la souffrance, et ça n'a rien de naturel. Donc c'est forcément quelque chose qui s'acquiert par le dressage. Enfin, ce que j'ai appelé le dressage des corps masculins.
Vous écrivez, voilà, que les corps masculins sont dressés, comme des animaux. Quoi.
Ils sont dressés, parce que quand vous regardez justement à Rome, il y avait des fouets, même parfois on accrochait des osselets au bout du fouet pour que ça fasse plus mal, le martinet, la trique, la férula... ce qui a donné le mot férule, c'est vraiment, c'était la base même de l'éducation, c'était qu'on apprenait à coups de taloche. Il fallait souffrir. Et donc, cette idée qu'un corps de garçon doit s'endurcir, ben finalement, ça visait quoi? Ça visait à rien d'autre que les envoyer à la mort. C'est-à-dire que si on veut former, parce qu'en réalité, c'est quand même le mythe guerrier qui est absolument central dans toute cette construction historique de la virilité, c'est fabriquer des combattants, fabriquer des guerriers. Or, comment on fabrique un guerrier? Ben en lui disant, t'as pas peur de mourir. Donc, et tu n'as pas peur de souffrir. Ouais. Et n'as pas peur de souffrir. Et puis, on verra après ça s'exercer au service militaire. Bon, à Sparte, c'était très violent, ça commençait très jeune. Mais au Moyen-Âge, il y avait une éducation militaire à partir de l'âge de 4 ans, avec des épreuves harassantes. Que ce soit à Sparte ou à l'époque médiévale, c'était des brimades continuelles, apprendre à supporter le froid, la faim, les coups. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup frappée en plongeant dans l'histoire, c'est de voir à quel point l'obéissance et la servilité sont là aussi pour fabriquer un homme. Fabriquer un homme, c'est fabriquer quelqu'un qui est prêt à... Parce que dans l'armée, on a besoin d'obéissance et de discipline. Donc en fait, on fabriquait des petits garçons complètement endurcis et pratiquement fanatiquement obéissants. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même à l'époque fasciste, où ils ont, si vous voulez, placé le culte de la virilité à son paroxysme à cette époque-là, le culte du muscle. Voilà. Et donc, si on en parle...
Mais effectivement, dans les valeurs viril ou dans l'éducation qu'on donne aux garçons, c'est d'être, on leur apprend à obéir et à endurer la souffrance.
L'obéissance, en tout cas dans le fascisme, c'est absolument fondamental. Il faut obéir fanatiquement. Et ça, c'est aussi une forme de dressage. Donc il faut apprendre à l'enfant à obéir dès la plus petite enfance et obéir à coup de trique.
Oui, y compris en France, je dirais qu'il était quand même pas rare que les instituteurs frappent leurs élèves, y compris dans les années 50.
Ah ben moi, je l'ai encore subi dans les années 60.
Ah bon ?
À la fin des années 60. Ah oui. Et ben, on frappait surtout les garçons d'ailleurs. Les filles, peu. Enfin, je n'ai pas de souvenir, personnellement. Mais je me souviens que le maître en CM2 frappait encore. Il y avait encore la règle sur les doigts. C'était une des rares écoles. Parce que quand j'en parle autour de moi, il y a peu de gens qui... Mais bon, fin des années 60, il y avait encore ça dans des écoles en France. Oui,
oui, c'est tout à fait toléré de frapper les enfants.
Oui, ou en tout cas, quand ils n'étaient pas frappés, il y avait encore des punitions physiques. Par exemple, au coin, main sur la tête, ou sous le bureau de la maîtresse. On voit en plus la punition totalement perverse. Comme des garçons qui allaient sous le bureau de la mère, qui y passaient toute l'heure, hein. Ça paraissait normal.
Ou dans le froid. Donc des punitions.
Ah oui. Ah ben ça, le froid. Il y a encore des pensionnats en France. Bon alors en Angleterre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle... 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le cœur sur la table.
Putain, n'en parlons pas, mais en France, où on les réveille à 4 heures du matin et on leur de parce que tout à coup il y a eu un problème dans le dortoir et tout à coup une personne a fauté, tout le dortoir est puni. Dans le froid, pieds nus, à 4 heures du matin, au milieu de la nuit. Ça se pratique encore.
Bon, donc ça, c'est quand même un point commun qu'ont eu, quelque chose qu'ont eu en commun tous nos ancêtres.
Oui.
Tous nos ancêtres, c'est d'avoir été éduqués de façon violente.
Comme si, c'est en ce sens que je dis, devenir un homme, c'est un fardeau. Évidemment, devenir une femme à cette époque-là, c'était pas non plus. Disons que ce qui m'a beaucoup frappée en écrivant ce livre, c'est de voir à quel point l'ensemble de ces rituels initiatiques étaient extrêmement douloureux, parce que là vous avez parlé du rite de la pédagogie pédérastique, mais dans le cadre du service militaire à Athènes, il y avait aussi d'autres rituels qui étaient très barbares, par exemple le rite de marginalisation, c'est-à-dire que c'est un gamin quand même qui a parfois 17-18 ans et qui pendant plusieurs semaines est abandonné à ses seules forces dans la nature, dans la forêt, il doit se débrouiller, se cacher le jour et la nuit, aller chasser ou voler pour se nourrir. Quel l'intérêt de tout ça, sinon de fabriquer un guerrier endurci? Et c'était la seule finalité. C'était ça, fabriquer du guerrier.
Oui, vous montrez à quel point le modèle central du masculin, c'est le héros, le guerrier en fait, le soldat.
Mais vir, wir, ça veut dire, ça vient du sanskrit et ça veut dire le héros.
La virilité. Ça vient de vir, wir, le sanskrit,
oui.
Le héros.
Oui, et l'héroïsme, c'est fondamental. C'est-à-dire, le pleutre, le lâche, il est assimilé au féminin, toujours.
Donc à un sous-homme.
À un sous-homme, donc à un non-homme. En revanche, celui qui meurt sur le champ de bataille, là, c'est le parangon de la virilité. À Sparte et à Athènes, ceux qui mouraient sur le champ de bataille, ils avaient une belle sépulture et les autres, ils n'avaient même pas leur nom. Ceux qui mourront de leur belle mort dans la vie, pas de leur belle mort, justement, de la mort normale, on va dire, pas sur le champ de bataille, leur nom ne sera pas inscrit sur la sépulture. Donc, ça allait quand même très, très loin.
Mais en fait, après avoir lu votre livre, je vois la vie de Paris de façon très différente aussi, parce que je n'avais jamais réalisé à quel point la ville était construite aussi à la gloire de l'armée et du soldat.
L'Arc de Triomphe, les Invalides, la Grande Armée, le Champ de Mars, évidemment.
La place Vendôme,
exactement.
C'est que à la gloire de bataille, de soldats.
Exactement, exactement. Mais enfin, il faut mettre en parallèle aussi les immenses cimetières militaires avec des centaines de milliers de sépultures. Et ça, je trouve que c'est un bon contrepoint aussi de rappeler quand même que la guerre tue et que c'est une abomination, la guerre. Il faut quand même le rappeler. C'est pas parce que je suis une femme que je le dis.
Non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est frappant de voir comment ça perdure aussi, dans les lieux où on vit, en fait, que ça a été façonné par l'idéal et l'imaginaire du héros, du guerrier, du soldat, quoi.
Bah oui, alors il y a une dimension évidemment patriotique très forte dans la virilité, mais ce qui est très étonnant, c'est la stigmatisation toujours de la lâcheté, le fait que les objecteurs de conscience soient si mal vus. Enfin, il y a vraiment une injonction à être un bon soldat dont on a hérité depuis la Grèce antique et qui aujourd'hui, heureusement,
commence à être remis en question.
Ouais. Bah déjà l'abolition du service militaire obligatoire. Ça a été déjà un immense progrès, parce que quand même, le 19e siècle avait été... tous les enfants avaient grandi dans l'obsession de l'épopée impériale, de l'armée, et dans un culte des drapeaux. Enfin, tout le temps, les drapeaux, les défilés, les parades, toute la société entière vivait au rythme du clairon. Et de... Bon, alors, évidemment, nous n'en sommes plus là, mais il y a encore beaucoup de pays dans lesquels ça reste l'idéal archétypique de la virilité, c'est le soldat.
D'ailleurs, vous expliquez aussi, vous racontez comment l'armée très concrètement contrôlait la virilité de ces recrues. En fait, l'examen pour faire son service militaire, c'était aussi un examen de virilité.
Oui, alors ça, c'est dans l'histoire de la virilité que j'ai trouvé des éléments là-dessus, sur effectivement l'examen pour l'entrée dans la conscription. Il y avait effectivement une intronisation avec la toise, etc. Et quand on était petit, on pouvait se faire refouler, ou en tout cas, on était, paraît-il, très mal perçu, moqué, discriminé, alors que le grand beau athlétique, il était tout de suite perçu, enfin promis à une très belle carrière militaire. Mais ça, ce sont des discriminations qui ont toujours lieu, enfin qui ont toujours cours, hein, pas dans l'armée, mais dans la vie, et même à l'embauche, on le sait ça.
Vous en parliez tout à l'heure des rapports entre la virilité et toutes ses conséquences politiques, notamment dans le fascisme. Le fascisme, c'est vraiment a poussé le culte de la virilité à son maximum.
Mais oui, parce que d'abord, c'est le culte du muscle et de la force, et puis d'une certaine brutalité aussi, portée à sa quintessence. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder l'ouvrage qui s'appelle « Fantasmagorie », qui est récemment traduit en français sous ce nom-là, de Klaus Tevelight, dans laquelle il montre justement ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il montre que derrière ce besoin de former une carapace extrêmement dure, brutale, invincible, insensible, il remarque dans les écrits des corps francs qu'il a analysés longuement, dans toute cette littérature des corps francs, une angoisse terrible de la fragmentation, de la dissolution. Et il y a une obsession chez les nazis, il y a une peur de l'indifférenciation. C'est une idéologie, comme souvent les idéologies très dogmatiques, qui tient absolument au maintien des polarités très opposées. C'est-à-dire que l'homme est vraiment un homme, il est très très opposé à la femme, et il n'y a rien de commun entre les deux. Et évidemment, les rôles sont clairement débarqués. Avec évidemment, l'abomination suprême, c'est l'efféminé, ou l'homosexuel, parce qu'on peut vraiment parler d'un homocauste aussi. C'est pas un jeu de mots, c'est vraiment une réalité.
Les homosexuels ont été exterminés par le Troisième Reich.
Absolument,
aussi.
Ça, on peut parler d'un homocauste. Et en réalité, pourquoi ? Parce que l'homosexuel, il brouille la différenciation sexuelle, il brouille les frontières. En plus, il abolit les distinctions de classe et de race, puisque l'homosexuel est prétendument quelqu'un qui est suspecté d'être dans l'effémination, dans ce qu'ils appelaient la juiverie. Donc finalement, l'homosexuel concentre toutes les tares de la dégénérescence. Et surtout, il brouille la différenciation absolue des sexes.
Et qui ça est fondamental dans le système fasciste.
C'est fondamental, parce que là, on voit aussi, Klaus Tevelweit le dit très bien, il y a un mépris, une misogynie immense dans le nazisme. Et pourtant, elles ont été nombreuses à voter pour Hitler, à porter au pouvoir, mais alors ensuite, après, reconduites à leur cuisine.
Oui, à la maison et à la
oui,
production des enfants.
Oui, quand on est à la procréation surtout. Hein, même on connaît l'histoire de Lebensborn. La femme est là pour procréer, pour fabriquer du garçon, du jeune fasciste.
Bon, voilà les différentes manières dont les hommes ont été éduqués jusqu'à donc, le pire modèle possible, qui est donc ce modèle nazi. Pour finir, j'aimerais que vous me parliez plus globalement de ce livre que vous avez écrit. Vous avez travaillé dessus pendant 3 ans, sur ce mythe de la virilité. Est-ce que votre regard sur les hommes a changé maintenant ?
Oui, énormément. Parce que, en fait, j'étais partie sur une réflexion sur le féminin, qui a d'ailleurs alimenté la première moitié du livre, qui porte plus sur la domination de l'homme sur la femme. Et il me manquait quelque chose, c'est-à-dire que je voulais essayer de comprendre pour quelles raisons, alors que le féminisme avait gagné la bataille idéologique, qu'on avait un féminisme d'État, un féminisme monde, des conférences internationales, des ministères des droits des femmes, etc., dans tous les pays
développés.
Non mais oui, non, mais je veux dire, ça a été pris en charge dans les démocraties occidentales, cette question, depuis quand même déjà au moins 20-30 ans, sérieusement. Et je ne comprenais toujours pas pourquoi il y avait le plafond de verre, la perpétuation des discriminations et du sexisme, toujours autant de viols, de harcèlement, enfin tous ces phénomènes qui semblent sortir du chapeau depuis un mois, mais en fait qui sont connus depuis longtemps. Hein. Et puis, en réfléchissant sur le féminin, je me disais, mais en réalité, le problème vient non pas seulement des stéréotypes sexués sur le féminin, mais vraisemblablement des stéréotypes sexués sur le masculin. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux hommes, en me demandant, mais quel est le ressort de la domination masculine? Et en tirant des fils, je suis tombée sur la magnifique histoire de la virilité de Alain Corbin, Courtine et Vigarello, qui a été ma bible pendant 3 ans et qui est vraiment d'une richesse exceptionnelle. Ils ont convoqué je ne sais combien, une dizaine d'historiens, chacun un point précis, mais c'est vraiment une mine d'informations. Et en lisant ce livre, j'ai vraiment pris conscience de ce que voulait dire Bourdieu quand il a dit que la virilité est à la fois un privilège et un piège. Parce que en se plongeant dans l'histoire du masculin, on se rend compte que la domination phallique s'est exercée sur les femmes, mais qu'elle s'est aussi beaucoup exercée sur le masculin et qu'on peut réellement parler d'une oppression de l'homme par l'homme et pas seulement d'une domination de l'homme sur la femme. Donc évidemment, mon regard a énormément changé parce que ce thème de l'homme victime qui m'agaçait, parce qu'il est en général utilisé par les masculinistes en disant l'homme est victime des femmes.
Bien sûr.
Eh bien, moi, je pense que les hommes sont victimes, effectivement, mais qu'ils sont victimes d'abord et avant tout d'eux-mêmes. Ils sont victimes d'une certaine image de la virilité, le mythe de la virilité, donc le virilisme, qui est une idéologie entièrement construite, fabriquée à l'aide de la philosophie, de la mythologie, de la science, du droit. Toutes les disciplines ont conspiré pour fabriquer cette image. Et effectivement, mon image des hommes a changé parce que je me suis rendu compte à quel point devenir un homme... J'avais beaucoup travaillé sur la phrase de Simone de Beauvoir dans mon premier livre. Et ça, c'est compliqué de devenir. On n'en est pas femme, on le devient, mais évidemment. Mais c'est aussi extrêmement difficile, coercitif, contraignant et discriminatoire de devenir un homme.
Même si, et il faut sans arrêt le rappeler, parce que, en fait, je suis d'accord avec vous, évidemment, mais il faut sans arrêt le rappeler que le groupe homme ne bénéficie pas des mêmes avantages non plus. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre d'avantages. Ça va avec. C'est-à-dire qu'ils sont dominés par leur domination. C'est aussi difficile, ils sont victimes de ce mythe-là, mais ça leur apporte malgré tout certains avantages, notamment en termes de pouvoir, très concrets.
Oui, absolument, vous avez raison. Mais il y a quand même pas mal d'hommes qui sont exclus. Par exemple, je pense à l'homophobie. L'homophobie, c'est une réelle discrimination. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui subissent de la discrimination. Il ne faut pas les oublier. Et on peut parler d'homophobie, on peut parler aussi de transphobie. Et ça va même plus loin parce que le mythe viriliste discrimine tous les hommes qui ne correspondent pas au canon viril, au stéréotype sexué. Donc, historiquement, ça va être le sauvage, l'indigène, le noir, l'arabe, le juif, le colonisé. Et donc, tout ça, tous ces hommes-là sont bel et bien, appartiennent bien au genre masculin et ils ont pourtant toujours été discriminés. Donc, oui, c'est un groupe de dominants, mais à l'intérieur de la catégorie des dominants, il y a aussi les dominants, les dominés. Et ça, c'est pour ça que l'approche intersectionnelle, elle est très intéressante.
Intersectionnelle, c'est-à-dire de prendre en compte différents critères que sont le genre,
la classe. Et donc, qui donne un autre éclairage. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, de la même manière que Lacan a dit « la femme n'existe pas », on pourrait dire aussi « l'homme n'existe pas ». Il y a des hommes et il y en a certains qui sont en position de domination et d'autres qui sont en position de dominer.
Pour finir, est-ce qu'il y a une œuvre que vous aimeriez recommander ?
Alors, je viens de parler de cette magnifique histoire de la virilité, donc je la re-recommande encore une fois. Sinon, je me suis aussi beaucoup inspirée de Françoise Héritier, « Homme-femme, la construction de la différence » en 2 volumes, qui remonte aux origines de la domination masculine, et c'est passionnant. Et enfin, je ne peux pas ne pas évoquer le magnifique XY d'Elisabeth Badinter, qui m'a aussi énormément appris, mis sur la voie, inspirée et stimulée. Voilà.
Merci beaucoup. Toutes
Merci
ces références
à
vont être à retrouver sur le site de binge.audio. Et puis évidemment, moi je recommande quand même encore le livre d'Olivia Gazalet qui s'appelle « Le mythe de la virilité » qui a été publié aux éditions Robert Laffont. Voilà, c'était le 9e épisode des Couilles sur la table. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Merci d'y avoir participé, Olivia Gazalet.
Merci à vous.
Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos sœurs, à vos frères, à vos pères, à vos mères, à vos copains, vos copines. Et n'hésitez pas à me raconter les réactions et les discussions que vous aurez eues en abordant ce sujet. Voilà, vous pouvez nous liker sur Facebook, nous suivre sur Twitter et m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@gmail.com.
Binge audio.
À bientôt. Bisous.
Ah non, binge.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.